137. Auprès des fleuves de Babylone, humains, nous étions assis et nous pleurions, et nous nous souvenions de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite, m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Éternel, souviens-toi des Édomites, qui, au jour du malheur de Jérusalem, disaient rasé, rasé, jusqu'à ses fondations. Fille de Babylone, qui va être dévastée, heureux qui te rendra la pareille, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Contexte, nous le connaissons. Le peuple, malgré les avertissements des prophètes, malgré la voix de Dieu qui a retenti clairement pendant des siècles et des siècles, n'a pas obéi et finalement est resté dans l'idolâtrie. Malgré tous les efforts que Dieu a déployés pour les préserver, pour les garder de cela, eh bien Dieu, le peuple de Jérusalem, le peuple de Juda n'a pas écouté. Et du coup, Nebuchadnezzar, ses armées et les armées de Babylone sont venues et ont emmené le peuple en captivité. Pourtant, parmi ce peuple, il y avait des hommes tout à fait remarquables, et nous en trouvons au moins 4 dans le livre du prophète Daniel. Et ceci nous livre une première application spirituelle, qui est que le juste doit parfois souffrir des fautes de l'ensemble du peuple. Et nous qui sommes chrétiens, nous savons très bien que nous avons à souffrir d'un monde qui devient de plus en plus difficile à vivre. Nous qui sommes chrétiens, nous vivons les affres de la délinquance, nous vivons les affres de la violence, nous en subissons les conséquences. Ce ne sont pas nos fautes, ce ne sont pas nos erreurs, mais c'est tout simplement un signe de la fin des temps. C'est que dans les derniers temps, les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent, etc., orgueilleux, amis de leurs parents, et que toutes ces choses, eh bien, nous les vivons. Alors, eh bien, nous n'avons pas à nous culpabiliser en nous posant des questions, en nous disant, mais est-ce que c'est ma foi, est-ce que c'est ma piété? Mais nous avons à agir de la même manière que le prophète Daniel a agi, en se prenant la résolution de ne pas consommer les mêmes mets que ce monde, et en apprenant à vivre dans le monde qui est le nôtre, de la même manière que Daniel et ses amis, eh bien, ont appris à vivre dans le contexte de Babylone, qui n'était finalement qu'une longue orgie et qu'une longue idolâtrie, pour ne pas dire une idolâtrie permanente. Ces hommes sont en exil. Ce psaume commence de la manière suivante, auprès des fleuves de Babylone. Le fleuve principal de Babylone, c'était l'Euphrate. L'Euphrate avait différents canaux, et le peuple d'Israël, à Babylone, pour la plupart, pour certains, était esclave et servait à l'entretien des berges et à l'entretien du fleuve. Et là, auprès des fleuves de Babylone, ils sont là, ils servent. Et l'Euphrate a une connotation également à une portée eschatologique, puisqu'elle sépare l'Occident de l'Orient et qu'à un moment donné de l'histoire, elle devra être asséchée de manière à permettre à l'Orient de fondre sur Jérusalem avec les armées de l'Antichrist. Et assis auprès de ces fleuves, l'Euphrate est également un des 4 fleuves qui composaient, qui étaient présents dans le Jardin d'Éden. Nous le trouvons dans la Genèse au chapitre 2 et notamment au verset 14. Assis au bord des fleuves de Babylone, ces hommes sont en exil. L'exil, pour nous, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. L'exil, pour nous, c'est quelque chose qui est étranger. L'exil, pour nous, eh bien, nous sommes en France, nous sommes dans notre pays, nous sommes dans notre contrée, mais il faut savoir que c'est un phénomène qui est ô combien traumatisant, puisqu'il y a un déracinement et que au-delà de tout cela, les peuples qui emmenaient les captifs les dépersonnalisaient complètement, c'est-à-dire les intégraient dans leur culture. Et après ce déracinement, il y avait un nouveau formatage qui était opéré, et pour un peuple qui était profondément monothéiste, se retrouver dans un pays idolâtre, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais à notre manière, si nous ne vivons pas ainsi, l'exil, nous pouvons le vivre de deux autres manières. Premièrement, nous savons que notre cité n'est pas sur cette terre. Nous en sommes des étrangers, c'est ce que dira l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, lui, dira dans sa première épître, au chapitre 1er, au verset 17, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Un pèlerin, il marche en quête d'une cité, en quête de quelque chose. Pour les musulmans, il y a le pèlerinage de la Mecque, pour les catholiques, il y a le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, Eh bien, pour nous, il y a le pèlerinage de la Sion céleste, la Jérusalem céleste. Et nous sommes en marche. Nous sommes en marche vers la Jérusalem céleste. Les pèlerins font des kilomètres et des kilomètres afin d'arriver à leur but. Et de la même manière, eh bien, nous, notre vie est un éternel pèlerinage, plutôt un éternel pèlerinage qui est limité dans le temps, hein, jusqu'à ce que notre cœur s'arrête de battre. Nous sommes en marche, et c'est normal, mes frères et sœurs, que parfois nous nous sentions profondément étrangers. Et je dirais même que le contraire serait anormal. Si je ne me sentais pas étranger dans la société dans laquelle je vis, si je ne me sentais pas étranger dans les conceptions qui sont les leurs, si je ne me sentais pas étranger lorsque l'on dit, lorsqu'on entend certaines choses, eh bien, c'est cela qui serait finalement anormal. L'apôtre Paul écrira aux Philippiens au chapitre 3 et au verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Notre cité est là-haut, notre vie est là-haut, notre quête est là-haut, notre culture est là-haut, notre attente se tourne vers là-haut, notre espérance se tourne vers là-haut. De la même manière qu'Abraham vivra en quête de la terre promise, eh bien, par Dieu, l'auteur aux Hébreux dit au chapitre 11, au verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Abraham attendait. Attendait la cité céleste, la cité qui a de solides fondements. Notre monde a des fondements qui ont été sapés. Mais la cité de Dieu, rien ne pourra la détruire. Rien ne pourra la détruire. Chercher notre identité de chrétien dans ce monde, au travers des valeurs de ce monde, c'est peine perdue. Et trouver notre identité, en quelque sorte, c'est trouver notre bonheur. À partir du moment où je suis en accord avec moi-même, alors je suis heureux. Alors je vis le bonheur. Mon malheur vient bien souvent du fait qu'il y a un écart entre ce que je voudrais être et ce que je suis, entre ce que je rêve et ce que je vis. Mais à partir du moment où je m'identifie réellement à ce que je suis, c'est-à-dire un enfant de Dieu, et que je vis les valeurs de l'Évangile, en sachant que ce monde m'apportera des joies éphémères, m'apportera des bonheurs éphémères, m'apportera certains plaisirs, mais en sachant que mon vrai bonheur se situe, eh bien, dans la manière dont je conçois mon espérance, c'est-à-dire en Jésus. Et cette espérance est une ancre pour notre foi. Oui, je suis étranger. Oui, je suis étranger. Oui, nous sommes en exil, à notre manière. Mais grâce à Dieu, nous savons que notre pèlerinage aura une fin et qu'un jour nous atteindrons un but, celui de la Jérusalem céleste, où là, eh bien, nous vivrons pleinement, sans douleur, sans souffrance, sans peine, sans larmes. Et même mieux que ça, eh bien, l'Éternel, le Seigneur Jésus, lui-même, essuiera toutes les larmes de notre yeux, de nos yeux, pardon. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes des étrangers, nous vivons en exil. Mais nous pouvons vivre, deuxièmement, un deuxième acte de cet exil, un exil dans notre propre vie. Comme je le disais, nous avons tous des rêves. Quand nous sommes mariés, nous rêvions d'un certain mari, d'une certaine épouse, d'une certaine belle-mère. Mais les choses, la vie est ainsi faite qu'il y a forcément un certain delta. Lorsque nous avons commencé un travail, ou lorsque nous étions dans nos études, on rêvait d'un travail aux 32 heures qui soit payé des millions. Et on se retrouve à embosser parfois 45 pour finalement pas grand-chose. Il y a un écart. Lorsqu'on s'est engagé dans la vie chrétienne, on se disait, ça va être fabuleux, ça va être extraordinaire, ça va être quelque chose de rose, ça va être le Seigneur, le Tout-Puissant est avec moi, je ne crains rien. Amen. Mais on s'aperçoit que parfois on prend quelques coups. On prend quelques coups parce qu'on a parfois, on a du mal à se protéger. Quand on a une conception de l'Église, quand on y rentre, c'est super, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Puis quand on y vit, on se dit, finalement, elle a quelques défauts. Hein? Elle a quelques défauts, mais gloire à Dieu, parce qu'après, on a creusé un petit peu plus loin, et on se dit, oh, c'est pas si mal que ça, finalement. Elle n'est pas si mal que ça. Et dans certaines parties de nos vies, on peut vivre des exils. À certains moments de notre vie, on peut vivre des exils. Parce qu'il y a une forme de déracinement entre ce que je vivais, entre ce que j'étais, entre ce que je rêvais. On peut vivre des exils en disant « mais ce n'est pas ma vraie nature, c'est pas comme ça que je concevais les choses, c'est pas ma manière de penser, c'est pas ma manière de voir, c'est pas comme ça que je le concevais. » L'apôtre Pierre, alors que, avant d'aller chez Corneille, dans la maison du tanneur, va vivre une forme d'exil en quelque sorte, puisque le Saint-Esprit va complètement bouleverser sa mentalité. Quoi? Comment est-ce que je pourrais manger des aliments impurs? Pourtant, tu vas baptiser un païen dans quelque temps. Pierre va vivre une forme d'exil spirituel où le Seigneur va l'enlever de ce qu'il concevait, va l'enlever de ce qu'il pensait pour finalement lui faire vivre autre chose, une vérité absolue, et le faire rentrer dans ses plans. Être en exil, ce n'est jamais quelque chose de facile. Être dans un territoire où on ne maîtrise pas, dans un territoire qui n'est pas le nôtre, dans une culture qui n'est pas la nôtre, dans un mode de pensée qui n'est pas le nôtre, dans un mode de pensée qui n'est pas conforme à celui dans lequel nous avons été éduqués. Pourtant, le Seigneur se plaît parfois à nous y mettre de manière à nous bouleverser, à nous secouer un petit peu. Quand je suis rentré dans le ministère, j'avais plein d'idées préconçues. Je ne ferai jamais ça. Tu parles. Les idées, elles évoluent, hein, elles changent, parce que le Seigneur nous change, tout simplement. Et parce que, bien pour le bien des âmes, pour le bien des hommes, pour le bien des femmes, eh bien, on est sans cesse en évolution. Et quand on rentre dans la vie chrétienne, on est bien enraciné dans des principes. Et puis petit à petit, quand on se retourne, eh bien, on se rend compte qu'on a vécu des exils. Mais on va voir que l'exil est utile à certaines choses. Ils sont assis. Au bord des fleuves de Babylone, dans cet exil, ils sont assis. Et on sait que dans la parole de Dieu, la position assise n'est jamais vraiment un bon signe. On a l'exemple du sacrificateur Élie qui était assis à l'entrée du temple. Il avait arrêté de servir. Puis là, il y a Anne, la future maman de Samuel, qui va rentrer, qui va venir. Puis il ne va rien comprendre à sa souffrance. Incapable de manifester la moindre compassion. Quand je ne sers plus, quand je n'avance plus, alors mon cœur s'endurcit automatiquement. On a l'exemple de David qui va pécher parce qu'il n'était pas au combat avec ses armées. On a l'exemple de Pierre qui ça va s'asseoir au bord du feu. Bref, ils sont assis et ils pleurent. Et ils pleurent. C'est intéressant de se pencher un petit peu sur les larmes que l'on peut trouver dans la vie, pour les différentes raisons que l'on a de pouvoir pleurer. Vous avez réfléchi? Aux différentes raisons que l'on a de pleurer. Bon, en général, quand on pleure, c'est parce qu'on est triste. Oui, mais me direz-vous, c'est un terme un peu générique qui est un peu vague. Alors, je me suis amusé à chercher, hein, dans la Bible, différentes choses qui me faisaient pleurer. Et j'ai dû faire un tri parce qu'il y en avait plus que le temps que j'avais. Alors, j'ai fait un petit tri. La première raison, c'est les larmes du travailleur. Ce qui n'était pas leur cas, puisqu'ils étaient assis. Psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Servir Dieu, parfois, ça fait pleurer. Être fidèle à Dieu, parfois, ça fait pleurer. Parce que la persévérance coûte. Parce qu'il y a un investissement qui n'amène pas forcément un retour immédiat et donc il y a une forme de frustration qui est là. Ça fait pleurer. Et qui de nous, dans sa vie chrétienne, n'a pas pleuré? En disant, Seigneur, c'est dur. C'est dur de se servir. C'est dur d'avancer. C'est dur, eh bien, de continuer à être fidèle. C'est dur d'être un témoin. Et puis des larmes ont commencé à couler, tout simplement parce que le cœur était lourd. Deuxième raison, c'est les larmes de ceux qui souffrent entre les mains de ceux qui les oppressent. Ecclésias, chapitre 4, verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont à but à la violence et de leur oppresseur, et personne qui les console. Deux fois, il y a cette expression qui vient. Personne qui les console alors que des hommes, eh bien, sont en train de souffrir entre les mains de ceux et de celles qui les oppressent. Ouvrons les journaux, regardons un journal télé, et nous verrons que des oppresseurs, il y en a à peu près partout, mais pas autant que des oppressés. Pas autant que des victimes. Et le pire des oppresseurs qui soit, c'est celui qui est l'ennemi de nos âmes, qui oppresse, qui violente, qui blesse, qui casse, qui détruit. Et gloire à Dieu, Jésus a été oint pour délivrer ceux qui étaient captifs, pour guérir les opprimés, Jésus a été oint et nous a oint du même esprit que lui, afin que nous accomplissions cette même mission en annonçant l'évangile, en annonçant qu'il y a un libérateur, en annonçant que le Fils de Dieu a envoyé le consolateur, en annonçant que le Fils de Dieu a envoyé le paraclétos, celui qui nous soutient, celui qui nous aide, celui qui est capable de guérir les blessures les plus profondes, celui qui est capable de relever les fatigues les plus intenses. Heureusement, eh bien, Jésus est venu. Et alors que Salomon écrit ça, c'est un homme déprimé qui écrit le livre de l'Ecclésiaste, il n'a que cette vision-là. Mais nous, nous avons une autre vision. Nous avons la vision de la grâce, la vision d'un Dieu qui console, qui sèche les larmes et qui les apaise. Troisième raison, c'est les larmes de ceux qui sont face à la mort et qui vont comparaître devant Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 38 et au verset 3, on trouve ce passage du récit de l'annonce de la mort d'Ézéchias et de la bénédiction que Dieu va lui accorder, ou plutôt de la réponse à sa prière. Ô Éternel, souviens-toi, c'est Ézéchias qui parle. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Devant Dieu, au jour de la mort, il y a bien des larmes qui coulent dans le cœur. Et moi, j'aime à me dire, et ça me fait du bien, que au moment où le souffle de vie s'en va, eh bien, il y a des cris qui sont poussés vers Dieu. Pour avoir accompagné les hommes et les femmes au seuil de la mort, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a bien des barrières qui tombent. Et qu'il y a une proximité qui naît. Je viens de cet homme qui n'avait jamais voulu me rencontrer. Jamais voulu me voir. Jamais. Il ne m'aimait pas. Tout simplement parce que j'étais pasteur. Et puis, me voilà au seuil de la mort. Et je viens, donc on m'informe, je dis bon, je vais aller voir. Je ne vais quand même pas me mettre à la porte. Puis lorsqu'il me voit rentrer, son visage s'illumine. Je m'assois sur le bord de son lit comme j'ai coutume de le faire. Et je le prends par la main. On ne s'est rien dit. Et j'ai vu ses larmes couler. Et c'était les larmes d'Ézéchias. Les larmes d'un homme qui savait qu'il allait comparaître devant son Dieu. Et j'ai compris, à l'éclat qu'il y avait sur son visage, que cet homme était converti. Son visage avait changé. Son visage a été transformé. Les larmes qui ont coulé, étaient le signe, eh bien, d'une crainte qui balaye tous les murs. L'homme sait qu'il va comparaître devant son Créateur. Parce que là, Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Quatrième type de larmes, les larmes de compassion. Jérémie chapitre 9, verset 1. « Aussi ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Leur habitation, leur vie étaient maintenant à Babylone. » Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Pourtant, quand on lit l'histoire du prophète Jérémie, ils lui en ont fait baver. Ils lui l'ont mis dans une citerne, ils ont voulu le tuer avec la langue. Bref, ils lui en ont fait baver. Pourtant, Jérémie a cette attitude de dire, je ne cesse de pleurer sur ce peuple, parce que je sais ce qu'il attend. Quelle belle attitude de cœur. Compassion, ça signifie souffrir avec. Cette forme d'empathie. Forme d'empathie qui est nécessaire pour le témoignage, mais cette forme d'empathie qui est nécessaire pour la prière, qui est nécessaire pour la persévérance. Si je n'ai pas de compassion, je ne persévère pas dans quelque chose. Mais à partir du moment où je mesure la souffrance de quelqu'un, alors j'accepte les coups de griffe, parce que je sais qu'il souffre. À partir du moment où je mesure la compassion, la souffrance de quelqu'un, alors j'accepte les rejets. Parce que je sais qu'il souffre. Et Jérémie savait ce qui attendait le peuple. Et il souffrait d'avance pour eux. Puis, il y a les larmes de repentance de Pierre. Ah, elles sont belles, celles-là. Lorsqu'il va croiser le regard de Jésus à la sortie du prétoire, moi, j'aime bien ces larmes-là. Les évangiles, notamment l'évangile de Matthieu, dit qu'il va pleurer amèrement. Quel contraste avec la repentance de Judas, qui, lui, va certainement pleurer également, mais qui va préférer aller se pendre. Je me souviens, vous pouvez déjà raconter cette anecdote. On sait que, avant ça, il y a deux type de tristesse. La tristesse selon les hommes et la tristesse selon Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul explique aux Corinthiens. Tristesse selon les hommes nous afflige pendant un temps et ensuite elle vient nous relève, tandis que la tristesse selon Dieu, pardon, nous afflige pendant un temps et ensuite nous relève, tandis que la tristesse selon les hommes, eh bien, elle nous dépite. Elle nous casse. Elle nous met sous la culpabilité. Je me souviens de cet homme qui était aumônier de prison. Puis il va voir un prisonnier. Et puis, le prisonnier se met à pleurer devant lui. À chevelard. Je dis, chouette, je vais enfin pouvoir. Il se passe quelque chose dans le cœur de cet homme. Pasteur, si vous saviez ce que je regrette. Vous regrettez, c'est bien. Pasteur, si vous saviez ce que je regrette. Vous regrettez, ah, c'est magnifique. C'est extraordinaire, vous savez, Jésus est prêt à vous pardonner. Si vous saviez ce que je regrette d'avoir marché sur la queue du chat qui a réveillé les propriétaires de la maison. Les larmes de Judas. Finalement, c'était ces larmes que versait le peuple. Nous étions assis auprès des fleuves de Babylone et nous pleurions. C'était des larmes de nostalgie. C'était des larmes de nostalgie. Ils ne pleuraient pas sur les causes de leur exil, mais ils pleuraient sur les conséquences de leur exil. Ils pleuraient d'avoir marché sur la queue du chat. En nous souvenant de Sion. Ils se souvenaient de Jérusalem. Ils se souvenaient peut-être de leur demeure. Ils se souvenaient de leur culture. Le terme Sion est important. Vous savez ce qu'il signifie? Parce que parfois, on le trouve très, très, très fréquemment dans l'Ancien Testament. Quelle est son origine? Non? C'est normal que vous ne le sachiez pas. Sion, le nom apparaît pour la première fois dans le second livre de Samuel, au chapitre 5 et au verset 7, alors que David va attaquer une cité qui s'appelle la cité des Jébusiens, qui deviendra Jérusalem. Hein. Sur le mont Sion, qui est situé sur le mont Sion. Et c'est là qu'il va bâtir Jérusalem. D'ailleurs, vous connaissez le contexte, il va avoir énormément de mal à prendre cette ville, et les habitants ont dit que même les boiteux et les aveugles le repousseraient. Et à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que les boiteux et les malades n'ont plus le droit de rentrer dans le temple. C'est pour ça qu'ils étaient à l'extérieur. Et donc, il va bâtir Jérusalem, il va appeler cette ville Jérusalem, il va l'étendre, et puis il va y amener l'arche. Et donc, cette montagne va être déclarée sainte. Et donc, la montagne de Sion va être assimilée à la présence de Dieu. Mais lorsque le roi Salomon va bâtir le temple, sur quelle montagne, sur quel mont va-t-il le bâtir? Le mont Morija. Et le transfert de la présence de Dieu sur le mont Morija va faire que ce n'est plus que Sion va être assimilé à la présence de l'arche, à la présence de Dieu, et non plus à la montagne. C'est-à-dire que Sion sera assimilé au lieu où est le temple, au lieu où est l'arche, et non plus au nom de la montagne initiale. C'est à peu près clair? Ça va? Et c'est pour ça qu'ensuite, on retrouve cette expression « Sion », le peuple de Sion, etc., fréquemment, qui est assimilée au lieu de la présence de Dieu. Il se souvenait de Sion. Il se souvenait de la présence de Dieu. Il se souvenait de la gloire de Dieu. Mais quel type de souvenir était-ce? Ils se souviennent peut-être des miracles passés. Ils se souviennent des grandes choses que Dieu a faites. Ils se souviennent de la gloire qui régnait sur Jérusalem, qui était crainte des peuples. Mais, marquez sur mes notes que c'était une foi qui était conjuguée au passé. Ils devaient se souvenir que Dieu, le Dieu qu'ils adoraient, le Dieu dont ils se souvenaient, avait fait sortir le peuple d'une autre forme d'exil, puisqu'il les avait fait sortir d'Égypte. Ils devaient s'en souvenir. Ils devaient se souvenir que Dieu avait ouvert la mer Rouge. Ils devaient se souvenir que Dieu avait fait sortir, jaillir l'eau à deux reprises de deux rochers différents pour les abreuver. Ils devaient se souvenir de la manne qui tombait. Ils devaient se souvenir des cailles qui sont venues. Ils devaient se souvenir de la perche avec le serpent d'airain qui avait été dressé et qui avait guéri. Eh bien, ceux qui avaient été piqués par les serpents brûlants, ils devaient se souvenir de l'ouverture du Jourdain. Ils devaient se souvenir de ce que leur père avait, leur avait enseigné et de la chute de Jéricho. Ils devaient se souvenir de tout ça. Mais eux, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils sont en exil. C'est terminé, c'est bouclé. Le ressort de la foi, en quelque sorte, est cassé. Ils sont en exil, c'est fini. Pourtant, Dieu avait fait des promesses, et notamment au prophète Jérémie, en lui disant « Ainsi par l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, et ils reviendront du pays de l'ennemi. » Dieu avait fait une promesse. Quelque part, ils n'y croyaient plus. Ils étaient en exil. Ils avaient raccroché leur arc. Pour eux, c'était bouclé, c'était terminé. Comment conjuguons-nous notre foi? Est-ce au passé, avec de grands souvenirs ou de beaux souvenirs? Peut-être même que l'on nous a raconté que nous n'avons pas vécu. Oh, on se souvient du temps de Douglas Scott. On n'y était pas, mais on s'en souvient quand même. Oh, lorsque l'Église a été fondée. Ouais, on n'y était pas non plus, mais... Même si c'est des choses qui sont bonnes, qui doivent nourrir notre cœur. Notre foi doit se conjuguer au présent et doit se conjuguer au futur. Je crois que mon Dieu n'a pas changé. Je crois que mon Dieu demeure. Je crois que mon Dieu est puissant. Je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Et je me propulse en avant avec cette notion-là. Je le sais. Est-ce que nous croyons, mon frère, ma sœur, crois que Jésus est capable de faire les mêmes choses qu'il a fait hier pour toi. Crois que Jésus est capable de faire les mêmes choses pour toi que ce qu'il a fait pour cette femme atteinte de la perte d'une perte de sang, ce qu'il a fait pour tous ces récits que l'on trouve dans les évangiles. Jésus reste le même. Notre foi a pu s'encrouter, pardonnez-moi l'expression, notre foi a pu se lasser. Le ressort a pu être rouillé, mais Jésus est capable de changer tous les cœurs. Jésus est capable de changer toutes les vies. Jésus est capable de transformer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est laid. Même le plus improbable, rien n'est impossible à Dieu. Comment se conjugue ta foi? Comment se conjugue ta foi? Alors, parce qu'ils ont cette foi cassée, parce qu'il y a ce ressort de la foi qui est cassé, que se passe-t-il? Ils accrochent leur harpe. Pourtant, au début, le peuple d'Israël, ou du moins une grande partie, lorsqu'ils sont arrivés, ils continuaient à exercer un culte à l'Éternel, même en exil. Il n'y avait plus le temple, il n'y avait plus les autels, pourtant, il y avait des signes de piété et il y avait encore des fêtes qui étaient célébrées, notamment sur les harpes, puisqu'on jouait de la harpe pour célébrer les fêtes. Quel est l'autre nom de la harpe? C'est la sitar. Vous trouverez selon les versions, ces deux noms qui sont synonymes. Et alors qu'ils sont dans la difficulté, ils vont vivre un paradoxe. Je m'écris, on sait que le psalmiste écrit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Dans la difficulté, il raccroche la harpe. Il raccroche la louange. Et alors, là, il se passe quelque chose de fou, un truc de fou. C'est les bourreaux, c'est ceux qui les avaient emmenés captifs, qui viennent les voir, et puis qui viennent leur dire, chantez-nous quelque chose. Je viens de cette femme qui est mariée, qui était mariée, qui est toujours d'ailleurs, mariée avec un mari inconverti. Quand elle n'allait pas bien, son mari l'a regardé et lui dit, tu ne veux pas aller à l'église, parce que quand tu reviens, tu as meilleur caractère quand même. Puis elle le regarde, t'as raison. Oui, t'as raison. Tu t'es pas vu prier, tu t'es pas levé pour prier ce matin. Tu devrais le faire plus souvent, hein. Hein, t'as raison. C'est étonnant parfois. C'est étonnant. Parfois, ce sont les gens de l'extérieur qui disent, chantez-nous les cantiques de Sion. Et eux, leur réaction, mais comment est-ce qu'on ferait sur une terre étrangère? Ils sont dans cet état d'esprit-là. Et pourtant, des années plus tard, continue. Pourtant, au milieu de cette attitude, un homme. va faire preuve d'un volontarisme farouche. Si je t'oublie, Jérusalem, alors que ma droite m'oublie et que ma langue s'attache à mon palais, si je ne fais de Jérusalem ma plus grande joie. Un homme. Là, ce n'est plus l'ensemble, mais c'est un homme. De la même manière que du temps du prophète Michée, alors qu'il y a une description de trahison, de violence, il dira, mais pour moi, je veux m'attacher à l'Éternel. Pour moi. Il y a cette volonté de dire, malgré tout, certains ont raccroché leur arc, peut-être ce serait normal que je la raccroche aussi, mais pour moi, je le veux. Il y a cette volonté de ne pas oublier et de nous souvenir, de se souvenir coûte que coûte de Jérusalem, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Et là, il ne s'agit plus de la nostalgie d'un endroit, mais il s'agit de la nostalgie d'une relation avec Dieu. En dépit de l'exil et de ses difficultés, en dépit de ses moments de lassitude et d'abandon, eh bien, le psalmiste veut continuer à se souvenir de son Dieu. Si on voit que c'est une souffrance véritable, qui n'est pas simplement l'attachement à un lieu, mais qui est l'attachement à la présence de Dieu. Et là, une pensée m'est venue alors que je préparais ce message. Quitter une église, ce n'est pas quitter un lieu. Ce n'est pas simplement quitter des hommes. Ce n'est pas simplement quitter une histoire. Mais c'est envoyer une lettre de rupture à Dieu. Je ne parle pas d'une église locale, mais je parle d'une église universelle. Changer l'église, c'est autre chose. Dire un moment ou un autre, je quitte, j'abandonne. En quelque sorte, c'est comme envoyer une lettre de rupture à Dieu. Alors, on pourra me dire, mais Dieu est partout. Il est dans ma chambre. C'est vrai. Mais en quittant un lieu, en faisant cet acte volontaire, quelque part on met une barrière entre Dieu. A contrario, en demeurant fidèle, même dans un lieu étranger, Daniel sera un instrument de Dieu. Et Dieu lui révélera les prophéties de la fin des temps. Que ma droite m'oublie. Ma droite, la droite, c'est l'image de la force. Et lorsque on quitte cette relation avec Dieu, lorsqu'on met une barrière entre Dieu et nous, barrière du péché, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre force, elle nous quitte. Il y a des choses qui nous quittent. Ce brave Samson l'a appris à ses dépens. Il va se laisser bercer sur les genoux de Delila. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Et puis au bout d'un moment, il va lui ouvrir son cœur. J'aime bien cette expression. Il va lui ouvrir son cœur. Et là, c'est fini. Rideau. Et Samson repart. Sa force, il ne l'a plus. Dieu s'est retiré de lui. Sa force n'était pas dans ses cheveux, mais était dans son obéissance. Certains talents, certains changements de caractère, cette bénédiction donnée pourrait nous être retirée. Et quand je m'éloigne de Dieu, quand je m'éloigne dans la présence de Dieu, quand je m'éloigne de l'aide de Dieu, quand je m'éloigne de celui d'où me vient la force, alors certaines choses sont mises, entre guillemets, entre parenthèses, en attendant que l'on y revienne. Ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Je pensais à ce texte qui dit que devant Dieu, toutes les bouches seront fermées. On n'aura plus d'excuses. Oui, c'est la faute de ma femme, tu comprends. Je parle tellement. C'est la faute de mon pasteur, il était trop long le jeudi soir. Il pouvait prêcher au moins 35 minutes. Tu comprends pas? Même ça ne fonctionnera pas. Je peux bien vous faire un certificat si vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. Et là, il a marqué une priorité forte, une priorité forte, qui a deux axes. Je veux me souvenir et je veux que tu sois la plus grande joie. Je pense que là, il y a deux clés pour notre vie spirituelle. On se souvient de ce que Paul écrira dans la seconde à Timothée, au chapitre 2, au verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » L'expression « mon évangile » est étonnante d'ailleurs, selon l'évangile que je t'ai transmis. C'est ça que cela veut dire. Souvenons-nous de Jésus-Christ, toujours. Se souvenir de Jésus, ça nous évitera de faire bien des erreurs. Souvenir que lui-même, eh bien, a souffert, ça nous aidera également nous-mêmes à souffrir. Se souvenir que lui-même a été serviteur avant d'être maître, ça nous aidera, eh bien, à garder, à conserver l'esprit d'un serviteur. Nous souvenir que, eh bien, Jésus a souffert entre les mains des hommes, des injustices, ça nous servira également, eh bien, pour supporter les injustices que nous serons amenés à vivre. Se souvenir que Jésus a été fatigué, alors qu'il est auprès du puits de Sichem, eh bien, ça nous aidera à supporter nos fatigues physiques, morales, spirituelles. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Et surtout qu'il est ressuscité des morts. C'est pas simplement Jésus-Christ crucifié que Paul invite Timothée à se souvenir, mais c'est Jésus-Christ ressuscité des morts. Puis deuxièmement, si je ne fais de toi ma plus grande joie, automatiquement on te pense à Matthieu 6, 33. Non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Aussi simple que ça, finalement, la vie chrétienne. Se souvenir pour prendre la force et mettre les priorités au bon endroit. Et je crois que le psalmiste, finalement, avait tout compris. Il faut parfois passer par l'exil, il faut parfois passer par le désert de manière à ce que les priorités soient mises au bon endroit. Je crois que je le disais jeudi dernier, mais je me fais vieux, donc j'ai le droit de rajouter. Hein, la tempête, l'exil, le désert, nous dépouillent de pas mal de choses, finalement. Et nous font montrer. Nous révèle ce qu'il y avait d'extrêmement superficiel dans nos vies, ce qu'il y avait d'extrêmement superficiel dans nos cœurs. Puis que se passe-t-il ? Psaume 126. Psaume 126. Les psaumes ne sont pas écrits dans l'ordre chronologique. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, quand l'Éternel ramena son peuple de l'exil, quand l'Éternel nous ramène de l'exil, alors nous sommes comme ceux qui font un rêve. Et nous serons tous amenés à faire notre rêve, nos rêves, disait mardi soir à Châteaubriand. Rêvez ! Rêvons ! Le Seigneur est celui qui est capable d'accomplir nos rêves. Parfois, le monde nous a rendus trop sages. Parfois, nos peurs nous ont rendus trop sages. Rêvons d'une église de 10 000 personnes à Nantes. Rêvons ! Rêvons d'une église par quartier à Nantes. Rêvons ! Rêvons que nos familles se convertissent. Nous sommes dans l'exil parce que nous souffrons, parce qu'elles ne sont pas converties, mais rêvons qu'elles se convertiront. Conjuguons au futur et Jésus nous fera vivre nos rêves. Non pas nos fantasmes, non pas nos délires, mais nos rêves. Parce que je crois que le Saint-Esprit est capable de mettre des rêves dans nos cœurs. Je crois que le Saint-Esprit est capable de mettre des folies dans nos cœurs. Des folies qu'il accomplira. Il a appelé les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il a appelé les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il est capable de nous faire vivre des rêves. Rêvons que nos montagnes s'en vont. Rêvons que nos liens tombent. Rêvons que nos cœurs brisés sont restaurés. Rêvons. Rêvons à ces choses-là. Et nous les vivrons. Et nous en serons tellement émerveillés qu'on dira, mais c'est quoi, Kevin ? Tu vis un rêve. Je vis un rêve. Un rêve éveillé, le même qu'on a vécu le jour de notre conversion, quand on a découvert l'amour de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font au retour de l'exil ? Ils disent, mais finalement, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu ne nous a jamais laissés. Dieu ne nous a jamais, n'a jamais dormi, mais il a toujours veillé sur nous. Et après le cauchemar, c'est le rêve. La réalité de l'amour de Dieu redevient quelque chose de définissable, quelque chose de concret pour eux. On le perd dans l'exil, on le perd dans le désert, on le perd dans la tempête, cette notion que nous sommes aimés de Dieu. Parce que pour nous, être aimé de Dieu, c'est être béni de Dieu. Oui ou pas? Quelque part. Mais c'est faux. Être aimé de Dieu, c'est toujours. Dans le désert ou pas, c'est toujours. Mais quand il nous fait ramener de l'exil, alors cet amour prend une autre tournure. Prend une autre réalité. Frère, ma sœur, tu feras des rêves. Tu vivras des rêves. Tu vivras des rêves. Mais conjugue ta foi au futur. Que le Seigneur soit béni. Amen.